Dans cette édition, on vous parlera de sécurité routière et de justice aussi avec l'association des voiliers de retour au tribunal administratif. Et puis, en fin d'édition, il y aura du sport. Le journal, c'est avec Vaïtiéré Pereire. Bonjour Vaïtiéré.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Vaïtiéré, on commence par cette question. Faut-il durcir le code de la route polynésienne ?
Une question que vont se poser les participants au séminaire sur la sécurité routière qui a débuté ce matin au Hilton de Faa, un rendez-vous très important pour combattre une situation tragique, comme l'ont dit les représentants du pays et de l'État en ouverture. Ils rappellent qu'avec une trentaine de morts par an et 10 fois plus de blessés sur les routes, la Polynésie est 3 fois plus accidentogène que la métropole. L'idée est donc de consulter et de faire débattre tous les acteurs du terrain en vue de construire courant 2025 un plan décennal de sécurité routière, un plan qui fera évoluer la prévention, bien sûr, la répression aussi, et donc la réglementation, un point sur lequel insiste le haut-commissaire Eric Spitz. Écoutez.
Notre objectif premier de ce séminaire, c'est aussi de modifier un certain nombre de lois de pays qui sont de la compétence du pays pour permettre de confisquer, par exemple, l'arme du crime. Et quand je dis confisquer l'arme du crime, c'est pouvoir confisquer des voitures. Quand vous arrêtez une personne qui, pour la énième fois, roule sans permis, sans assurance, est un danger public pour les autres, le seul moyen, c'est la confiscation du véhicule. Mais pour confisquer des véhicules, il faut des fourrières.
Des fourrières ou au moins une, puisque le pays n'en a actuellement pas. Interrogé sur le sujet, Jordi Chan évoque des travaux qui ont été lancés et le recrutement en 2025 d'un spécialiste dédié à la DTT pour préparer le terrain réglementaire. Mais le ministre en charge des transports rappelle que cette fourrière ne fera pas tout. Il faut surtout faire bouger les consciences, changer les techniques de prévention, rajouter des outils de répression aussi. Le haut-commissaire reconnaît de ce côté-là qu'il y a des manques du côté de l'État.
Il y a un certain nombre de délits routiers qui n'ont pas encore été homologués par une loi au niveau national. Nous ne pouvons pas faire de PV électronique. Nous n'avons pas de caméras qui peuvent faire coller des contraventions. Tout ça, c'est des blocages administratifs pour certaines raisons. Parce que le fichier des véhicules polynésiens n'est pas le même que les fichiers au niveau national. Aussi parce qu'on a pour les amendes, on a des Français FP, alors que les logiciels sont en euros. Voilà, donc tous ces blocages, c'est aussi à moi d'agir de manière à convaincre l'État, le gouvernement, de faire évoluer les choses.
Eric Spitz qui évoque aussi la mise en place de radars fixes, pas une priorité mais une possibilité, pourquoi pas dans les grandes lignes droites accidentogènes de la côte ouest. Autant de sujets qui seront donc débattus pendant 2 jours de séminaire entre professionnels. Suivra jeudi une journée dédiée au grand public. On y trouvera notamment des démonstrations de désincarcération par les pompiers, des simulateurs de choc ou encore des parcours pédagogiques à vélo encadrés par la police. Ça sera donc jeudi sur la place Toata. Et ce sera bien sûr entièrement gratuit.
L'association des voiliers de retour au tribunal administratif.
Oui, pour la 2e fois en 1 mois, l'association des voiliers était de retour dans cette juridiction pour demander l'annulation de l'augmentation des tarifs de la Marina Teina, qu'ils jugent abusif. L'affaire n'avait pas été mise en délibéré. Le tribunal souhaitait revoir les motifs qui ont été examinés ce mardi. Donc, pour rappel, le port autonome a acté cette augmentation fin janvier 2024. Elle vise notamment les propriétaires qui vivent sur leur bateau. Le tarif qui leur sera demandé est majoré de 250% pour un monocoque et de 150% pour un multicoque. Le port justifie cela par une forte demande, des tarifs qui n'ont pas été augmentés depuis 2006 et par son offre de service. Le rapporteur public est allé dans le sens de cet argumentaire, expliquant que le gestionnaire du site était libre d'appliquer ses propres tarifs. Le délibéré est attendu pour le 10 décembre.
En sport, la fédération tahitienne de va croit fort en son rêve olympique.
Objectif, JO de Brisbane en 2032. C'est l'ambition de la fédération tahitienne de va qui a reçu le soutien officiel du pays ce mois-ci. À l'international, la fédération multiplie les opérations pour faire avancer sa cause. Une délégation va d'ailleurs s'envoler début décembre pour participer au forum Peace and Sports à Monaco. L'occasion de réaliser un peu de lobbying et de présenter une stratégie, car ce chemin vers les Jeux olympiques, annonce très difficile. Valdemar Delage vous explique.
Oui, la fédération tahitienne a des ambitions, c'est une chose, mais le temps presse pour les Jeux Olympiques de 2032, dont le programme devrait être annoncé d'ici 2026 ou 2027. Et il reste beaucoup de choses à faire pour tenter de convaincre. La première, c'est de faire partie d'une fédération internationale affiliée au CIO, le Comité International Olympique. Tous les sports qui prétendent à une place au JO le sont depuis longtemps et participent à des événements en ce sens. Seulement, la fédération internationale de va n'est pas affiliée. Son bureau actuel n'est pas dans cette optique. Les Tahitiens souhaitent donc reprendre la tête de cette fédération lors des élections de décembre prochain. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient alors créer un autre regroupement de fédérations, une union internationale pour montrer au CIO leur capacité à unir des nations des cinq continents, ce qui nécessitera l'implantation du VA en Afrique. Et pour ça, le Maroc ou le Sénégal sont notamment ciblés. Différentes opérations séduction vont donc être menées.
Une fois reconnue par le CIO, cette fédération de VAA devra aussi se démarquer par rapport à une forte concurrence. On le rappelle, lors de chaque édition des Jeux Olympiques, jusqu'à 5 sports additionnels peuvent intégrer le programme.
Et pour 2032, ces 5 places s'annoncent chères. Il y a déjà le cricket, sport additionnel à Los Angeles 2028, qui est très populaire en Australie. Parmi les autres sports inclus à Los Angeles, le baseball et le squash ont aussi de fortes chances de rester pour Brisbane. Enfin, l'Australie pourrait être tentée d'intégrer le netball, sport reconnu par le CIO à mi-chemin entre le handball et le basket, très populaire aussi en Australie. De fait, il ne pourrait rester qu'une place pour un nouveau sport additionnel. Des places convoitées depuis des années par des disciplines telles que le karaté, le kickboxing, l'ultimate frisbee, le billard snooker ou encore les fléchettes et le padel. Le VAA présente toutefois plusieurs avantages au regard de ce que demande le CIO. C'est un sport qui ne nécessite pas d'infrastructures supplémentaires et il est tout à fait possible d'y instaurer la parité et des épreuves mixtes. En tout cas, on y croit dur comme fer à la fédération tahitienne.
Et après Monaco, des projets de démonstration et des opérations séduction devraient être montées un peu partout. Mais on l'a dit, le temps presse. Si les JO organisés en Australie sont une belle fenêtre pour ce sport océanien, les futures éditions devraient avoir lieu en Asie puis en Europe, des régions où le VAA est moins connu.
Toujours côté sport, on revient sur cette course qui a mis les organismes à rude épreuve dimanche.
Oui, l'Equidène, cette course à pied en relais qui a rassemblé dimanche près d'un millier de personnes sur le front de mer, a été marquée par plusieurs malaises. Il faut dire que le premier départ a été donné à 13h30 dans une journée particulièrement chaude. Résultat, de nombreux coureurs pris en charge par les secours après des coups de chaud ou des déshydratations. 3 d'entre eux ont dû être évacués vers l'hôpital et un s'y trouve même toujours. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années se trouve, selon nos informations, au service de réanimation dans un état très inquiétant. À la fédération, on explique avoir mis tout en œuvre pour éviter les accidents de ce genre en mettant en place plusieurs points d'eau à Banbridge et un ravitaillement sur le parcours. Mais pour Cécile Gilroy, les accidents sont inévitables sur ces courses grand public qui poussent à se surpasser.
C'est aussi le format de la course, c'est une course par équipe. Donc voilà, quand tu cours seul à marathon, tu te dis bon là je vais ralentir et tout. Là c'est en équipe, l'équipe voulait faire au mieux pour que l'équipe soit le mieux classée. Donc voilà, ça peut pousser des personnes à se surpasser. C'est aussi le principe même hein, de cette course, le dépassement de soi. Maintenant, voilà, c'est clair que ça demande une préparation minimale tout de même pour un 5 km.
La présidente de la fédération qui rappelle aussi que l'idée des organisateurs était d'abord de tenir ce premier Equidène de Polynésie en soirée. Écoutez.
L'horaire, voilà, ça nous a été un peu imposé pour cette année parce que c'est une première édition. Nous, on voulait le faire en soirée, un samedi. C'était compliqué pour la commune de nous octroyer cette autorisation. Pour cette année, on a essayé de faire comme on pouvait. Donc, d'où l'horaire en plein milieu de la journée pour le départ de l'Equidène.
Malgré ces malaises, cette première édition de l'Equidène a été globalement bien accueillie. Les organisateurs prévoient même déjà une deuxième édition, en soirée cette fois et au mois d'octobre plutôt qu'en novembre.
La jeunesse LGBT d'Océanie a rendez-vous dans une église de Tahiti.
L'association Cousins-Cousines organise avec la Fédération internationale ILGAL le premier forum pour la jeunesse LGBTQIA+ océanienne. 3 jours de rencontres et de discussions en présence d'une vingtaine de jeunes militants des pays du Pacifique. Les débats auront lieu dans une église, celle de la communauté du Christ de Tarona à Fareouté. Les sanitos vont également assurer l'hébergement et la restauration d'une partie des invités. La communauté est d'ailleurs en train de préparer pour les semaines à venir le premier sacrement de mariage homosexuel dans une église du Fénois. Les Sanitos se démarquent depuis déjà plusieurs années parmi les églises chrétiennes pour leur ouverture sur les questions LGBT. Ce premier forum pour la jeunesse LGBTQIA+, océanienne, aura lieu début décembre. Pour Karel Luciani, président de Cousins-Cousines, il ne faut pas reculer sur leurs droits. Si la situation des LGBT s'améliore avec des avancées et des dépénalisations récentes dans la région, elles restent précaires.
Et puis cet événement pour terminer avec les marraines de Tahiti.
25 ans que l'exposition Vente est organisée chaque année et qu'une partie des bénéfices est envoyée à 3 foyers de jeunes filles mères. 35 artisans et artistes seront présents avec une gamme de produits très large, alimentation, vêtements, déco et plusieurs nouveautés cette année. Une coiffeuse proposera de faire des tresses africaines et une brocante sera installée à côté des stands. Cette année, l'argent servira à financer un gros projet, offrir un ordinateur portable à chaque jeune fille des foyers.
On voulait trouver une solution à cette fracture numérique qui les concerne. Alors, on sait qu'en classe de 3e, il y a un examen pour mesurer le niveau informatique des élèves. Et dans ces foyers, elles avaient accès peut-être à un ordinateur, mais bon, c'était quelque chose de collectif. Là, on a réfléchi pour défendre l'égalité des chances. Et pour nous, nous y tenons beaucoup.
Pour Eliane Noble-Demey, ce soutien peut faire la différence. Et avec l'expo Vente des marraines, on peut se faire plaisir ou trouver quelque chose à offrir tout en participant à une bonne cause. Ce sera ce vendredi, samedi et dimanche à partir de 8h30 à l'Intercontinental. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le retour de l'information, c'est à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci Valtieri pour ce journal. Maintenant, on retrouve la météo sur Radio.